Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val d'Oise, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Jacqueline Voraz avec Francky et la technique. Bonjour Francky. Bienvenue dans l'édition spéciale MEDEF, dédiée ce mois-ci au dynamisme entrepreneurial et aux défis stratégiques des PME du 21e siècle. Aujourd'hui, vendredi 11 avril, avec moi, trois invités de marque qui partageront leur expérience et vision pour l'avenir. Jeanne Berry-Josselin, déléguée générale MEDEF Val-d'Oise. Bonjour Jeanne.
Bonjour Jacqueline.
Merci d'être à nos côtés ce matin.
Merci de votre invitation.
À vos côtés, Antoine Le Cozanet. Bonjour Antoine.
Bonjour Jacqueline.
Chargé de mission, développement et projets stratégiques au MEDEF du Val d'Oise. Ravi de vous accueillir Antoine.
C'est un réel plaisir d'être avec vous ce matin.
Merci à vous. Vous nous expliquerez ce rôle de chargé de mission et quels sont ses projets stratégiques au MEDEF 95. Vers 10h, nous retrouverons par téléphone Patrick Chassagne, co-président de la Grande Boulangerie de Paris, une entreprise passion dirigée par trois associés et qui se distingue par son engagement envers des valeurs fortes que nous découvrirons avec ce troisième invité. Merci à vous d'être les invités en direct d'IDFM Radio dans l'économie en direct. Une émission à retrouver à tout moment en podcast sur le portail de la radio idfm98.fr.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Jeanne Berry-Josselin, alors donc déléguée générale du MEDEF, je commence avec vous cette interview. Vous êtes arrivée en septembre 2024 au sein du MEDEF 95. Avez-vous trouvé toutes vos marques aujourd'hui, depuis?
Oui, bah il faut quand même. Hein, un moment, il faut savoir avoir ses marques. Et on m'a aidé à ce que ce soit le cas. Le Val d'Oise est un département plutôt très accueillant et le monde économique aussi. Donc ça permet de vite rencontrer tous les acteurs et c'est une chance. C'est une chance et une pratique des acteurs du Val d'Oise qui est plutôt à saluer.
C'est vrai, oui, qui est reconnu, hein, connu et reconnu. Merci. Alors peut-être un rappel du rôle du MEDEF en général et en particulier pour le MEDEF du Val d'Oise. On rappelle que son nouveau président est Frédéric Canfray, oui. PDG du groupe AGP.
Tout à fait. Frédéric Canfray, qui est président depuis janvier 2024, donc qui est arrivé quelques mois avant moi quand même, qui a pris la succession de Michel Jonquer. Et donc depuis janvier 2024 et depuis septembre, depuis mon arrivée, on essaie de donner une nouvelle dynamique, non pas en renonçant au passé, mais en se disant que voilà, il faut savoir mettre une empreinte différente aussi. Le rôle du MEDEF, le MEDEF est une organisation patronale. Donc on a un rôle d'animation de notre réseau d'adhérents à travers des événements, des rencontres, des formations aussi pour les adhérents. On a aussi un rôle important dans le cadre du paritarisme. C'est ce qui fait la différence entre une organisation patronale et une association d'entreprise au sens plus classique, il faut le rappeler. Et ce rôle fait que à travers des mandataires qui sont des chefs d'entreprise du MEDEF nommés par le président, par le bureau, on représente les chefs d'entreprise dans l'intégralité des institutions qui sont liées au travail dans le Val d'Oise. C'est très vaste, il y en a qu'on connaît bien, c'est les conseils de prud'homme, c'est le tribunal de commerce. Il y en a qu'on connaît moins, c'est la CEPAM, l'URSSAF, France Travail, il y en a au CEVO, dans vraiment toutes... toutes les instances ou les juridictions qui touchent au monde du travail, aux chefs d'entreprise, il y a des chefs d'entreprise qui sont là pour représenter leurs homologues. On connaît mieux, c'est curieux parfois, le syndicalisme, et on sait qu'ils sont présents pour représenter les salariés. C'est le principe du paritarisme. À chaque fois que vous avez quelqu'un de syndiqué du côté salarié, vous avez quelqu'un de syndiqué côté patronal. Absolument. Donc c'est vraiment le cœur de notre rôle. C'est ça. Et ensuite, bien sûr, on a des services pour nos adhérents. On a une conseillère juridique qui est là pour nos adhérents, pour les appuyer sur des soucis. On fait du conseil RH. On a un pôle dont on a déjà beaucoup parlé à EDFM Radio, qui travaille sur l'inclusion, l'insertion, la découverte du monde professionnel. D'ailleurs, vous avez accueilli, il n'y a pas longtemps, un de nos stagiaires, qui est une personne qui était bénéficiaire du RSA et qui se réoriente vers les métiers médias, etc. Donc, on fait comme ça des découvertes de monde professionnel avec nos partenaires. Donc voilà, c'est ça le rôle du MEDEF un peu rapidement. Donc, on garde cette empreinte historique et importante du MEDEF, et on essaye d'insuffler de nouveaux événements, de nouveaux projets aussi pour attirer des entreprises ou des chefs d'entreprise qui ne s'intéressent pas forcément aux organisations patronales, parce que malheureusement la culture de l'engagement a un peu baissé, et c'est pareil, c'est les salariés, c'est l'époque veut ça. Donc on crée des choses. Le conseil d'administration a voté récemment notamment la création d'un tarif jeune pousse. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tarif jeune pousse? L'idée, c'est de proposer à des chefs d'entreprise qui ont créé une entreprise il y a moins de 3 ans et qui est leur première création d'entreprise, de bénéficier d'un tarif très préférentiel d'adhésion au MEDEF. La première année, c'est de l'ordre de 200 euros par an. Donc, c'est quasiment symbolique nous. C'est bien en dessous de nos tarifs habituels. Pour qu'ils puissent découvrir ce que c'est qu'une organisation patronale, quels sont nos événements et comment ça se passe. Et aussi, éventuellement, découvrir l'enjeu des mandats et s'investir.
Parce que plus on le fait tôt, mieux c'est.
Exactement. Je pense qu'il faut le faire tôt. Je pense qu'il faut comprendre cette dynamique. Les mandats, en dehors du fait de vouloir s'investir, c'est aussi un apprentissage à faire. C'est pas si simple. Il y en a, comme les conseils de prud'homme, où il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup d'aides, et c'est très bien. Il y a des mandats où c'est un peu plus complexe de trouver des informations, des formations. On est là pour les aider. Mais petit à petit, en prenant les mandats tôt, en apprenant, on peut aussi acquérir des mandats plus spécifiques à des échelons autres parfois que départementaux, et c'est des personnes qui vont représenter le Val-d'Oise à des échelles importantes et porter notre voix. Donc c'est un peu le cœur de notre action, et ça, effectivement, plus on démarre tôt, plus on peut le faire. Et c'est un autre enjeu, mais on peut pas avoir en mandataire uniquement des personnes à la retraite ou de temps. Il faut aussi avoir des chefs d'entreprise jeunes qui représentent d'autres demandes et d'autres préoccupations. Il faut une parité dans tous les sens, hommes, femmes, et aussi sur les âges. Donc nous, on veut virer personne, on veut garder nos mandataires très actifs depuis très longtemps, mais il faut aussi qu'ils puissent s'appuyer sur un autre dynamisme. Et donc c'est l'idée de ce tarif, c'est vraiment d'encourager les jeunes à venir au MEDEF et à s'investir durablement au MEDEF. On souhaite créer un COMEX 40, c'est en cours. Qu'est-ce que c'est que le COMEX 40? Le COMEX 40, c'est une entité du MEDEF qui est liée au MEDEF territorial, au MEDEF Val-d'Oise, mais qui a sa petite indépendance quand même, et qui réunit uniquement des chefs d'entreprise de moins de 45 ans. Il y a en général 2 coprésidents, une femme et un homme, dont je n'ai pas les noms, donc je ne les donnerai pas, ça sera encore sous le jeu du secret. Et l'idée, c'est de les laisser s'organiser et organiser des événements qui les intéressent en tant que chef d'entreprise jeune, parce qu'à un moment de 45 ans, on est encore jeune pour être chef d'entreprise, et vraiment de traiter leur sujet dans un cadre sympathique, souvent plutôt détendu, dans les COMEX 40 qui existent, c'est souvent des événements assez sympathiques, et où ils peuvent peut-être traiter de sujets qu'on ne va pas forcément traiter nous dans nos réunions, parce qu'on traite des sujets qui concernent tout le monde, mais qui eux, ils ont remarqué que dans leur expérience de l'entrepreneuriat, cette problématique-là, elle était présente parce qu'ils sont jeunes et parce qu'ils n'ont pas la connaissance de certaines choses. Voilà. Donc ça, on va le mettre en place. Il y a un Commerce 40 qui est très actif au niveau national au MEDEF, et ça va aussi permettre aux chefs d'entreprise qui vont s'investir dans le Val d'Oise de pouvoir aller au MEDEF national et de rencontrer des gens à une autre échelle, et on espère de créer des liens et de montrer le dynamisme de notre département, qui est quand même le plus jeune de France hexagonale.
Oui. Donc
j'espère qu'on aura plein de jeunes chefs d'entreprise au Comex 40 pour représenter cet atout.
Ben, je vous le souhaite, je trouve que c'est une excellente idée de créer ce Comex 40, parce que moi je les vois, j'en vois plusieurs sur le territoire national à travers les réseaux sociaux, et on voit que c'est vraiment un regroupement important et qui a une vraie valeur d'expérience.
Hein. Oui, d'expérience et encore une fois de réseau, parce qu'en étant dans un Comex 40 dans le Val d'Oise, on rencontre aussi les gens des Comex 40 des autres départements. Même si les adhérents du MEDEF se rencontrent à des événements comme la REF, etc. Mais c'est des événements un peu à part qui permettent peut-être de tisser des liens et de rencontrer des homologues d'un peu plus loin et d'apprendre des choses, de s'entraider. Donc c'est vraiment une bonne chose.
Donc voilà des nouveaux projets très bienvenus et bravo pour ces initiatives, Jeanne. Alors... lors de l'audience solennelle du tribunal de commerce, le président de ce tribunal, Yves Charron, a évoqué des chiffres assez importants. Il est venu dans mon émission là il y a pas très longtemps. Il nous a redonné ces chiffres où on voit que les faillites et dépôts de bilan sont en hausse. Pour les entreprises toujours actives, comment le MEDEF 95 agit-il pour les accompagner?
Alors il y a deux choses principales. Le premier échelon, j'ai envie de dire, c'est le conseil juridique qu'on fait en interne, qui est donc à disposition gratuitement pour nos adhérents, qui peut les appuyer sur certaines questions d'ordre juridique sur ce qu'ils peuvent faire ou non, donc ne pas hésiter à le solliciter pour ça. Et surtout, la première permanence a eu lieu cette semaine au MEDEF, c'est une permanence de la DDFIP dans les locaux du MEDEF, avec des conseillers qui viennent de la DDFIP pour aider les entreprises, soit qui ont une problématique fiscale avérée en cours, soit qui sentent venir des difficultés et qui veulent savoir ce qu'ils ont le droit de faire ou non.
Je veux rappeler que la DDFIP, c'est la Direction départementale des finances.
Exactement. C'est quelque chose qu'a... rendons à César ce qui est à César. C'est la CCI qui l'a fait en premier à Cergy. Ça existe déjà à Cergy. Ça marche très bien. C'est une initiative, une idée de cette direction de la DDFIP de dire les chefs d'entreprise ont du mal à venir nous voir, et de fait c'est impressionnant d'aller à la préfecture, c'est des locaux un peu massifs, on se dit bon, on va forcément sortir de là en étant puni. Alors c'est moi qui le dis ça, c'est le sentiment.
Je rebondis, Jeanne, je vous coupe, c'est la même chose avec le tribunal de commerce de Pontoise. À chaque fois maintenant, le président et les juges consulaires expliquent que venir prendre des conseils, c'est pas au contraire.
Voilà. Donc, comme il y a cette peur, cette crainte du lieu et de ce qu'il représente, ils se sont dit, pourquoi ne pas aller dans les lieux qui sont les lieux des chefs d'entreprise. Donc, d'abord la CCI, évidemment, qui est le lieu par excellence des chefs d'entreprise. Et ils nous ont proposé de faire la même chose, puisqu'on a des locaux à Argenteuil. On a évidemment dit oui. Et donc, c'est une permanence qui est ouverte à toutes les entreprises, pas uniquement à nos adhérents, qui a lieu dans le pavillon Reclore, qui est en plus un très bel endroit. Donc, c'est une chance de le découvrir au MEDEF. Et vous pouvez vous inscrire très facilement. Vous allez sur le site du MEDEF. Il y a un lien pour s'inscrire avec quelques questions. Je précise que les informations qui sont données sur ce site sont envoyées directement à la DDFIP et que nous n'avons pas de regard dessus. On a vraiment souhaité que ce soit anonyme et que les chefs d'entreprise puissent se sentir libres de venir sans que l'information soit diffusée. Donc moi, je ne sais pas pourquoi les gens viennent, ni particulièrement très confidentiel. Et bien sûr, quand vous venez prendre des conseils auprès de ces conseillers, c'est pas pour vous faire un contrôle fiscal derrière. Ils vont pas noter votre nom en disant tiens, il a des difficultés. Non, l'idée justement, c'est de pas en arriver là. L'État n'a pas d'intérêt contrairement à une rumeur un peu persistante chez les chefs d'entreprise, l'État n'a pas d'intérêt à aller jusqu'à ces procédures qui sont longues, coûteuses pour tout le monde et pénibles. L'intérêt de l'État, au contraire, c'est que les entreprises n'en arrivent pas à ce niveau-là et de pouvoir les aider avant. Donc c'est la démarche qui a été lancée par la DDFIP. C'est effectivement aussi la démarche d'Yves Charron qui est très bonne de dire sensibilisons les chefs d'entreprise avant d'en arriver aux difficultés et surtout montrons-leur que les instances sont là pour les aider et non pas pour les punir, alors pour les punir quand c'est nécessaire, mais si on peut ne pas en arriver là, tout le monde est d'accord pour ne pas en arriver là. Donc c'est l'idée de ces permanences. La première donc a eu lieu le 10 avril, la prochaine sera courant mai, probablement la deuxième semaine de mai, mais la date sera communiquée sur les réseaux sociaux. Et de toute façon, pour s'inscrire à la prochaine, vous pouvez toujours utiliser le fameux formulaire qui est sur le site du MEDEF. Vous tapez MEDEF Valdois sur un moteur de recherche et vous tomberez dessus tout de suite. Il y a un onglet spécifique. Et n'hésitez pas à vous inscrire, que vous soyez d'Argenteuil ou d'ailleurs, mais si ça vous arrange, pas de souci. C'est très ouvert. Anonyme, gratuit, donc voilà, il faut y aller.
Oui, ça ne peut être qu'un plus.
Et faire passer le message.
Oui, il faudra me donner les dates, comme ça, moi je relaierai. Merci d'insister sur ce côté confidentiel, et puis en fait, c'est comme au tribunal de commerce, c'est une cellule de prévention.
C'est ça.
Et je peux même dire, pour connaître bien le sujet maintenant, je crois que c'est même un atout supplémentaire quand l'entreprise ne va pas bien. On lui sait gré d'avoir consulté avant. Voilà, il y a une relation qui s'installe.
La principale difficulté pour nous vis-à-vis des entreprises à difficulté, c'est que malheureusement, on a toujours cette culture du secret. C'est-à-dire qu'on a tendance, quand on sent la difficulté à arriver, à se replier un peu sur nous-mêmes, à dire surtout, je ne vais rien dire, parce que on va dire que il faut arrêter avec cette culture qui est très française. Il faut dépasser ça. On peut avoir des difficultés. On peut même fermer une entreprise. Ça arrive. Ça ne veut pas dire qu'on va échouer pour toujours.
Et puis, on n'est pas forcément coupable. C'est une facture, un impayé, quelque chose.
Et surtout, il faut demander de l'aide, parce que c'est à ce moment-là où nous, on est utile. Moi, il n'y a rien que je trouve plus dommage que quand j'apprends au moment des cotisations qu'une entreprise a fermé et que je m'aperçois qu'en fait on n'a eu aucun signaux avant et que je ne sais que quand on leur dit on renouvelle la cotisation et qu'on nous dit non parce qu'on ferme, et là on se dit effectivement il y a quelque chose qu'on a loupé, parce que normalement ils doivent pouvoir nous appeler au moins pour être aiguillés, d'où cette idée de faire des choses vraiment faciles d'accès, très neutres pour permettre de ne pas en arriver là et de lever les leviers avant. Mais c'est aussi une culture à mettre en place. Et vraiment, on remercie la préfecture du Val-d'Oise d'aller vers les chefs d'entreprise, parce que c'est la dynamique et que c'est très original. Je crois qu'il n'y a pas d'autres départements qui le font. Et c'est vraiment une chance et une force qu'on a ici. Donc on est très heureux de proposer ce service à toutes les entreprises à Argenteuil désormais.
Moi, je vous dis bravo pour cette initiative. Alors, je voulais vous poser comme question, quelles sont les initiatives récentes à nous citer, mises en place pour renforcer la présence du MEDEF dans le département? Voilà une. En avez-vous d'autres?
Oui. Alors, tout à l'heure, Antoine se présentera, mais pour renforcer la présence du MEDEF, avoir quelqu'un en plus, c'est déjà une grande initiative. Donc, Antoine est arrivé il y a une dizaine de jours. Donc c'est vraiment quasiment une présentation officielle à IDFM Radio, on en est très fiers. Mais donc déjà on renforce notre présence en termes de nombre de personnes pour pouvoir vraiment couvrir le département. Et ensuite, nous on a un bon vivier d'entreprise, on en est fiers sur Argenteuil et sur Cergy, mais je l'ai déjà dit ici aussi, on a vraiment la volonté de se développer aussi sur Roissy. Et on a conscience que c'est des pôles qui ne communiquent pas forcément ensemble, donc en termes de capacité humaine à couvrir le tout, c'est pas évident. Donc voilà, l'idée c'est aussi vraiment d'avoir quelqu'un qui puisse être plus présent sur ce secteur. Ça fait partie de nos principales initiatives. On a fait nos vœux à Roissy, c'était pas un hasard, on l'a dit.
C'était une vraie réussite.
Merci. Et donc, d'un point de vue territorial, il y a cet enjeu de réussir à couvrir cette partie du département qui est très importante. On le voit, on parle de droite d'âne, etc. En ce moment, c'est là que ça se passe.
Je vous poserai une question derrière.
on veut vraiment renforcer notre présence là-bas et pouvoir montrer aussi au reste du département qui a parfois du mal à communiquer avec Roissy ce qui se passe là-bas. et comment certaines entreprises peuvent se mettre en synergie. On a surtout, on va porter cette année deux événements qui sont une nouveauté pour le MEDEF Val-d'Oise, mais qui sont des événements qui ont été créés par d'autres MEDEF territoriaux et qu'on souhaite amener dans le Val-d'Oise. Le premier, c'est une REF locale. Alors on connaît souvent la REF qui est
de l'été,
l'université d'été du MEDEF que tout le monde a vu à la télé. Ça se passe à Longchamp, etc. Ça, c'est la REF nationale. Nous, on va le faire au niveau local. On veut le faire dans le Val d'Oise pour réunir tous les acteurs du Val d'Oise dans un lieu privilégié où on pourra faire échanger à la fois les institutions et les chefs d'entreprise. Et surtout, on a une thématique qui est l'industrie au service de la transition écologique. Et l'idée, c'est de montrer ce que les entreprises du Val d'Oise font pour cela. C'est pas de donner des leçons aux entreprises, mais au contraire, c'est de montrer les forces qu'on a sur le territoire et qui déjà sont des forces industrielles qui font des choses en faveur de la transition écologique, parce que on a tendance à beaucoup dire ce qu'il faut faire mais pas à montrer ce qu'on fait déjà. Donc ça, on va le faire. Ce sera le 11 septembre dans un lieu qu'on dévoilera un peu plus tard mais qui plaira, j'en suis sûre, à tout le monde, et donc la REF locale. Le deuxième événement, ce sera les journées du patrimoine économique. Donc ça a lieu un peu après les journées du patrimoine, fin septembre, et l'idée, c'est de désensibiliser le grand public à l'entreprise qui est à côté de chez eux. Pourquoi désensibiliser ? Parce que le grand public a parfois une image négative ou s'inquiète de ce que fait l'entreprise à côté de chez soi, parce qu'on voit de la fumée sortir, parce qu'il y a des grandes barrières, on ne sait pas ce qui s'y passe, etc. Et bien là, l'idée, c'est simplement d'ouvrir les portes des entreprises pour que les gens puissent venir voir ce qui s'y passe et comprendre que souvent, on a une image un peu ancienne de l'industrie, de ces grandes usines, etc. Et que maintenant, c'est plus comme ça. Il y a des tas de normes qui protègent les gens qui habitent aux côtés des entreprises. Il y a souvent pas de risque. Et quand il y en a, les entreprises ne sont pas à côté des habitations.
Non, bien sûr. Les normes sont telles que c'est pas possible.
Non seulement il n'y a pas de risque, non seulement il n'y a pas de danger, mais en plus, c'est souvent des entreprises qui proposent des choses intéressantes dont on ne sait pas qu'elles se produisent à côté de chez nous, avec des métiers vraiment intéressants et d'avenir qui peuvent intéresser les enfants qui habitent à côté.
Pour l'avenir.
L'avenir. Donc voilà, c'est ça l'idée, c'est de montrer ce qu'on fait réellement dans les entreprises, de montrer la qualité des métiers qu'on y propose. Et on va faire ça en partenariat, bien sûr, avec l'académie, pour essayer aussi de sensibiliser les jeunes aux métiers. Nous, on va sûrement travailler en interne avec nos demandeurs d'emploi pour en profiter, pour leur montrer des métiers qu'ils ne connaissent pas forcément. Ce sera fin septembre. On fera une communication là-dessus un peu plus tard. Mais que les entreprises qui éventuellement ont ce sujet sachent que ce ne sera pas uniquement pour les entreprises adhérentes du MEDEF. Moi, je laisserai les entreprises non adhérentes participer à l'événement. Et on communiquera auprès des entreprises prochainement. On espère que tous nos réseaux relayeront l'information pour qu'il y ait le plus d'entreprises possible qui participent à cette première édition. Voilà. Et ça a été créé par le MEDEF Saône-et-Loire, si je ne fais pas d'erreur, donc je leur rends l'idée qui est vraiment très porteuse et très sympathique.
Donc ça sera forcément un week-end, je pense.
Il y a un jour ouvré, vendredi, et deux jours qui sont sur le week-end, puisque l'idée c'est de pouvoir toucher un public scolaire et aussi de pouvoir permettre aux parents d'y aller. Et donc on va essayer de faire en sorte qu'il y ait des entreprises un peu partout dans le Val d'Oise pour que vraiment tout le monde puisse aller voir les entreprises de sa ville. En général, on va dans une zone industrielle que quand on a une raison d'y aller soi-même. Et là, au contraire, l'idée, c'est vraiment de pousser les portes des entreprises voisines et de voir ce qui s'y passe. Donc on verra comment la communication se fera, mais toutes les informations seront données en temps utile au grand public.
Bravo encore pour cette belle initiative. Je me disais en vous écoutant qu'en plus, ça va être pour les élèves, ça va être dans la continuité de la semaine éducative entre l'éducation nationale et les entreprises. Donc oui, c'est une belle initiative. Bravo à vous. Merci infiniment, Jeanne, pour ce tour d'horizon et ce rappel des fondamentaux du MEDEF en général et du MEDEF du Val-d'Oise en particulier. Je vous propose qu'on fasse une pause parce que ça va être l'heure d'appeler notre deuxième invité, Patrick Chassagne. Donc on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
I was alone, I feel that I can hold on. Oh, I was running to a place that I never knew. All around was blue, 'cause I never found the light. C'est quand la lumière s'efface et quand la douleur elle reste en place, tu viens me chercher pour que je puisse respirer.
IDFM Radio, le média valdoisien.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio. Et ce matin, spécial MEDEF 95, en présence de Jeanne Berry-Josselin, déléguée générale MEDEF Val-d'Oise, Antoine Le Cozanet, chargé de mission, développement et projet stratégique au MEDEF 95, et Patrick Chassagne, coprésident de la Grande Boulangerie de Paris. Alors, nous l'avons compris, parmi les missions du MEDEF, il s'agit de promouvoir les entreprises adhérentes.
Oui.
Et donc, preuve à l'appui, j'accueille à présent Patrick Chassagne, donc co-dirigeant de l'une de ces entreprises adhérentes du MEDEF du Val d'Oise. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour à tous.
Merci d'être au rendez-vous. Alors Patrick, vous êtes à la tête avec deux associés de la Grande Boulangerie de Paris à Beson. À quel endroit à Beson ?
Alors, on est dans la zone industrielle qui est au bord de la Seine. Mmh. D'ailleurs, depuis notre salle de réunion, on apprécie le retour du printemps puisqu'on a une jolie vue.
Une belle vue. Alors, une entreprise, vous m'avez expliqué, une entreprise reprise à la barre du tribunal en 2007, si je ne me trompe pas, ou 2009, je ne sais plus.
2009, tout à fait.
2009. Alors, expliquez-nous cette aventure.
Ah oui, parce que ça a été une vraie aventure.
Ah oui, j'imagine.
Alors d'abord, c'est une entreprise locale qui, avant qu'on arrive à avoir connaissance, est une entreprise qui est d'abord dirigée par une famille, trois frères, puis qui ont du mal à s'adapter aux 35 heures. Mmh. Et qui font faillite eh bien en 2005, c'est-à-dire en fait le temps que l'organisation finalement des 35 heures les
se
rattrape
en
un
place,
peu.
Ouais. Mmh.
Et à ce moment-là, c'est une entreprise de 180 personnes.
Ah oui, oui quand même. Oui.
Et donc l'histoire de cette entreprise est fascinante. C'est trois frères boulangers d'origine normande, mais habitant dans l'ouest parisien, hein, qui ont des boulangeries à Colombes, à Nanterre, des boulangeries du coin de la rue, et puis qui voient arriver la défense qui se construit, et la défense, c'est des gens qui vont dans des bureaux. Mmh. Et le midi, il faut qu'ils aillent manger quelque part. Et donc, dans chacune de ces grands tours de la défense qu'on connaît bien, il y a des restaurants d'entreprise. Et là, les gens qui opèrent ces restaurants d'entreprise, qui sont Sodexo, Elior, Compass et d'autres entreprises de ce type, se disent, le pain, où est-ce qu'on peut le prendre? Et là, les trois frères lèvent la main, disent, nous, on peut vous livrer, on est juste à côté. Mmh. Et puis, à partir de cette opportunité, ça va devenir une entreprise qui va se centrer vers la restauration collective, en fait les professionnels. Donc, la Grande Boulangerie de Paris, c'est une entreprise qui, aujourd'hui encore, fait du pain pour les pros.
D'accord.
Donc, en fait, ça va évoluer. Ils vont d'abord ouvrir un fournil, puis venir à Beson s'installer. Mais c'est un petit peu la génération de chefs d'entreprise qui travaillent très, très dur. L'histoire raconte qu'il y avait un des trois frères qui dormait sur place toutes les nuits. Mais qui sont pas très bons en gestion,
en tout cas. En stratégie.
Et qui se font bousculer par l'arrivée des 35 heures dans un métier, la boulangerie, mais c'est pas le seul métier, mais bon, historiquement, on travaille tant qu'il y a du travail, vous voyez. Hein, on s'arrête pas.
On décide pas fini, à telle heure de partir. Hein.
Et donc, elle est rachetée à ce moment-là par un monsieur qui va pas faire grand-chose, et 3 ans après, elle va refaire faillite. Et donc, là, à ce moment-là, quand on reçoit le dossier, on se dit, c'est pas possible pour une boulangerie de faire faillite, en fait. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On regarde mieux et on s'aperçoit qu'en fait, c'est vraiment mal géré. Le dernier propriétaire fait n'importe quoi. Et donc, on se précipite parce qu'on a le dossier un peu tard. On arrive au tribunal après avoir convaincu l'administrateur judiciaire qu'on est des gens sérieux, et on fait une offre qui est acceptée. Et donc, en janvier 2009, on est déclaré acquéreur du fonds de commerce de cette boulangerie, qui est dans un état épouvantable. Un état humain épouvantable, vous imaginez. Un état de d'outils industriels, d'outils de production épouvantable. Et les relations avec ses clients ne sont pas bonnes. Donc, pourquoi aller se mettre dans une telle galère, hein?
Il y avait tout à faire, donc c'est un vrai challenge.
C'est exactement ça. C'est l'occasion d'arriver avec un œil neuf, de mettre en place une stratégie, de mettre en place des hommes, de mettre en place des nouvelles relations de travail, et puis de commencer doucement à investir pour renouveler l'outil de production.
Alors moi, je voulais vous poser une question, Patrick. Étiez-vous quand même déjà dans cet univers du pain pour vous être intéressé à cette entreprise?
Alors on va dire qu'on avait un pied dedans, puisque mon associé Pascal et moi-même avions à l'époque une boulangerie bio dans le 14e, qu'on a toujours d'ailleurs. Mais on n'était pas vraiment des enfants du métier, en fait.
Oui, vous étiez des chefs d'entreprise, c'est-à-dire est-ce que vous aviez une formation de boulanger?
Non. Et ça a été la rencontre avec notre troisième associé, Sébastien, qui, lui, vient du métier, a fait tout ce qu'il fallait faire, de ses études d'apprenti jusqu'à tout un tas de grandes maisons, et avec une expérience et une richesse de son approche humaine, technique, qui a apporté finalement ce qui manquait à cette entreprise, c'est-à-dire de savoir faire du bon pain.
Oui.
Savoir faire du bon pain, c'est pas si simple qu'on le croit.
Non, c'est vrai. Bon, avoir du bon pain, c'est une vraie gageure. Hein. Je suis personnellement en phase avec vous, parce que quand je fais un dîner, pour moi, le pain est aussi important que mes plats.
Et alors, il se trouve que moi, je pense que les Français savent où est la bonne boulangerie, n'importe où qu'ils soient. C'est d'ailleurs près de chez eux, bien sûr, tout le monde sait où est la bonne boulangerie. Quand ils sont éventuellement en province, dans un endroit, ils vont souvent, soit en vacances, soit en famille, ils savent aussi où est la bonne boulangerie, mais ils peuvent le découvrir, ils ont un sixième sens, un pouvoir magique n'importe où ils vont. Et en fait, c'est très simple, vous rentrez dans un village ou une petite ville, première boulangerie, deuxième boulangerie, il y a la queue. Troisième boulangerie, faites demi-tour, vous retournez à celle où il y a la queue.
C'est ça. C'est le critère.
C'est un critère. Quelqu'un qui fait du bon pain a une clientèle régulière, fidèle, contente, et qui se voit physiquement devant le devant la devanture.
Alors, donc une entreprise reprise en 2009, donc aujourd'hui nous sommes en 2025, donc on peut dire que le challenge a été quand même gagné. Aujourd'hui, j'ai compris que vous aviez fait le choix stratégique de l'excellence. C'est ce dont nous venons de parler, mais peut-être avez-vous rencontré des défis quand vous avez repris cette entreprise à la barre ?
Des défis par dizaines, mais j'allais dire, comme tout chef d'entreprise, une entreprise, c'est un délicat équilibre entre des hommes, des savoir-faire, une stratégie, une bonne gestion, et puis tous les chocs externes qui peuvent survenir et pour lesquels vous n'êtes pas préparé. Mais c'est sûr que quand vous avez des hommes de grande qualité, une stratégie claire et une gestion sérieuse, vous êtes mieux placé pour naviguer par gros temps. Mm-hmm. Et puis, espérons que ça ne dure pas trop longtemps. Bah, nous, oui, ça nous est arrivé récemment, bien sûr, avec le Covid.
Oui, hein. Oui.
Donc vous imaginez, on est juste derrière les tours de la défense, et il y a là ces dizaines de milliers de franciliens qui vont travailler tous les jours et qui descendent
qui, du jour au lendemain,
déjeuner tous les jours et du jour au lendemain leur dit rentrez chez vous. Alors ils vont pas arrêter de manger du pain, mais ils vont plus manger notre pain.
Votre
à nous
pain, oui.
Ils vont manger le pain du boulanger le plus proche ou celui qu'ils ont choisi à côté de là où eux ils habitent.
Et alors comment
et donc, nous on va se retrouver à moins 50% de chiffre d'affaires deux années de suite.
Oh là. Bon, vous aviez des réserves, hein, j'imagine.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça devrait tuer normalement une entreprise, 50% deux années de suite. Mais bon, d'abord, on a reçu des aides de l'État, ça c'est à noter. On a eu aussi des souplesses de l'URSSAF, c'est à noter également. Mais surtout, je devrais dire plutôt des banquiers d'ailleurs que des banques. Parce que quand on est dans une PME, eh bien, en fait, on a des relations humaines avec les gens qui sont présents, les banques avec lesquelles on travaille. Donc, ce travail de confiance, ben, il nous a aidés au moment du Covid. Et puis voilà, on est reparti, on est revenu aujourd'hui à notre santé avant Covid.
Très bien. Donc, bravo. Bravo pour tout ça. Et par rapport aux clients qui avaient été prospectés par les trois frères, vous avez pu récupérer ces clients parce que j'imagine que quand il y a eu le dépôt de bilan, ça les clients sont allés ailleurs aussi.
Ça a été là aussi un travail de confiance. C'est-à-dire que j'ai toujours la première chose, c'est que le produit doit être irréprochable.
Oui, oui.
Donc on a ramené la qualité du pain au niveau attendu par les clients. Aujourd'hui, je pense qu'on l'a même dépassé, mais à l'époque, première étape, ramener la qualité du pain au niveau attendu par les clients. Et à partir de là, on a rétabli une forme de confiance, une forme de capacité à travailler ensemble. Ça a été difficile, mais je crois que tout le monde a compris à l'époque, les gens que j'ai rencontrés ont compris que ça manquait un peu de bon sens dans la gestion précédente et que les gens qui arrivaient ne les connaissaient peut-être pas vraiment, mais ils avaient l'air plus raisonnables, on va dire.
Oui, oui, oui. Aujourd'hui, Patrick, je comprends que vous essayez de transmettre un message également, hein, c'est-à-dire que vous avez réussi à concilier excellence et satisfaction de vos clients. Pour vous, c'est une véritable stratégie d'entreprise.
Oui, et vous le savez, je suis membre de la Commission nationale d'entrepreneuriat du MEDEF. Et ce que je défends comme vision pour les entreprises petites et moyennes, c'est que elles n'ont pas d'autre choix que d'aller chercher une espèce d'équilibre difficile entre excellence et profitabilité, excellence et rentabilité. Et que pour ça, si on ne cherche pas à faire, quel que soit le produit ou le service dans lequel on opère, si on ne cherche pas à aller améliorer l'état des choses en permanence, hein, une forme de progrès permanent, eh bien, on va se faire rattraper. Mmh. On va se faire rattraper par des gens plus agiles, par des gens avec des coûts du travail moins élevés, par des gens qui sont moins encadrés par l'inflation normative. Mais on peut encore, moi c'est ma conviction, hein, dans cette deuxième quart de siècle du 21e siècle, on peut encore exister en tant que PME si justement on s'astreint à revenir à la qualité du produit et du service en première intention. Mmh. Et donc il y a, et j'en croise beaucoup, des entrepreneurs finalement qui réussissent à trouver une niche à leur taille dans laquelle ils peuvent exceller et tout ça est un cercle vertueux en réalité.
Mmh. Ouais, ouais, je comprends. Sachant que donc vous prenez le fait qu'il ne faut pas chercher la croissance pour la croissance, mais que je dirais la quête de l'excellence forcément entraîne cette croissance.
Effectivement, il y a un très beau livre que je recommande à tout le monde qui s'appelle Small Giants de Bo Burlingham. C'est un livre Small Giants, ça veut dire petit géant, donc c'est une espèce de, oui, une espèce de surprise.
Et
petit géant, pourquoi? Parce que ce sont ces entreprises qui choisissent d'être excellentes plutôt que de grandir. Ça ne veut pas dire qu'elles ne grandissent pas. Mm-hmm. Nous, on fait 5 à 10% de croissance par an, on est très contents. Mais on ne fait pas de la croissance pour la croissance. On fait de la croissance parce que nos produits sont appréciés, parce qu'ils ont du succès, parce que les clients nous le demandent. Et on fait cette croissance tout en gardant en tête qu'il faut avoir un équilibre économique permanent. Et donc, on ne va pas chercher les clients pas rentables, juste pour dire qu'on a fait un peu plus de chiffre d'affaires.
Mmh. Ouais, je comprends.
Voilà. Donc, cette notion de d'être petit mais grand, ça veut dire que c'est une piste pour tous les entrepreneurs qui se disent, mais finalement je suis attaqué de toutes parts, comment est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux résister finalement à cette déferlante de pays à bas coût, par exemple, bas coût ou normes plus souples. Et
bon, c'est vrai que oui, c'est vrai que vous n'avez pas de problème de concurrence à l'étranger. C'est déjà un atout important.
Sans doute, mais comme vous le voyez au quotidien, tout le monde peut faire du mauvais pain et tout le monde peut réussir à le vendre moins cher que vous.
Oui, c'est vrai.
Donc, si vous voulez, à un moment ou un autre, vous avez une concurrence qui peut s'établir avec une vision du marché différente de la vôtre. Ça ne veut pas dire qu'elle est inexacte, c'est juste dire qu'elle est différente. Et puis des clients qui se mettent à hésiter. Mmh. Est-ce que 10% de moins et certaines qualités un peu moins bonnes, ça marche pour moi? On peut se poser la question.
Ça peut avoir un impact, oui. Alors, nous évoquions avec Jeanne Berry-Josselin la situation économique actuelle complexe, mais quand vous me dites que vous faites 3 à 5 % de résultats tous les ans, ça veut dire que votre secteur ne subit pas les retombées de ce climat, ou voilà, parce que la nature de vos produits font que vous n'êtes pas impacté?
Alors, c'est vrai, c'est plutôt de la croissance que du résultat, mais on fait aussi du résultat. C'est cette croissance, elle vient finalement d'actions de long terme. Et donc, peut-être qu'on est un petit peu moins sensible que d'autres métiers, mais comme l'a montré l'épisode Covid, on n'est pas immune du tout. Des circonstances extérieures.
Exceptionnelles.
Je vous donne un exemple. On utilise des farines label rouge locales pour faire notre pain. Ça fait partie de nos engagements, d'utiliser des farines de haute qualité, label rouge, et locales, parce qu'il n'y a pas de raison d'aller chercher au bout du monde de la farine, puisque on a la Brie et la Beauce, qui sont les deux grandes régions céréalières françaises, à proximité. Il y a un organisme public qui s'appelle l'INAO. Et l'INAO a décidé, il y a 5 ans, qu'il y avait un produit qui s'appelle des inhibiteurs de croissance, que les céréaliers mettent dans leur champ pour empêcher le blé de venir trop haut. Parce que s'il est trop haut, il est difficile à, il tombe et donc après on peut plus le moissonner. Mm-hmm. Bon, et il se trouve que ces inhibiteurs de croissance, on n'en a pas besoin en dessous de la Loire. Donc le D'accord. blé du Sud-Ouest, lui, n'en a pas. Donc si l'INAO change le cahier des charges du blé de la Belle Rouge, d'accord, ou de la farine de la Belle Rouge, eh ben ça veut dire que moi je vais être obligé d'aller chercher mes blés dans le Sud-Ouest si je veux garder du label rouge, et donc je vais perdre le côté local, ou bien je vais rester local, mais je ne serai plus label rouge. Et ça concerne pas seulement la grande boulangerie de Paris, ça concerne l'ensemble de la filière.
Oui.
Bon. Donc, vous voyez, une entreprise, finalement, ce n'est qu'un exemple, elle est sans cesse soumise à des interventions extérieures. Et il se peut effectivement qu'on soit touché par cette décision si finalement elle est prise, même si toute la profession essaye de faire comprendre que ben oui, la nature tue de la Loire ou en dessous de la Loire, ben c'est pas le même temps, par exemple.
Bien sûr. Très bien. Patrick, j'ai encore deux questions à vous poser. L'intelligence artificielle joue-t-elle un rôle dans votre activité quotidienne? Et si oui, comment?
On y réfléchit parce que on voit arriver cette tendance. Donc on a une expérimentation qu'on va probablement mener cette année, non pas pour faire du pain, ça je ne pense pas encore, mais pour travailler sur des aspects de relations clients. Et donc on surveille. On n'est pas une entreprise hyper technologique.
Oui, même si
on a beaucoup investi pour avoir un beau fournil qui fonctionne bien et qui fait du bon pain, on n'a pas encore cette dimension IA. Mais demain matin, peut-être qu'elle viendra sur la maintenance prédictive, par exemple, en analysant les faiblesses des outils de production pour signaler qu'il y a une maintenance qu'on peut faire un peu plus tôt que prévu sur tel ou tel four, par exemple.
Oui, pour éviter toute rupture. Et donc, si on veut goûter votre ou vos pains, où faut-il aller puisque vous ne servez pas les particuliers? Comment peut-on faire?
Écoutez, c'est une très très bonne question. Je peux vous envoyer dans quelques-uns des restaurants qui utilisent nos pains et qui du coup peuvent le servir à leurs convives qui sont accessibles au grand public. Bien sûr, vous pouvez aller si vous avez la chance d'aller à Roland Garros. Nous sommes chaque année choisis pour être le boulanger de Roland Garros. Comme nous l'avons été d'ailleurs pour les JO, pour une partie du pain des JO. Oui,
pour les VIP, vous m'aviez dit.
Pour les
extra VIP.
Les plus fortunés d'entre nous, si vous pouvez aller manger à Armani Café sur le boulevard Saint-Germain, le chef fait quelque chose d'intéressant. Il réchauffe des petites boules de pain qu'on fait pour eux. Et il le sert tiède.
On a faim là d'un coup.
Ah ben oui, puis c'est un petit peu l'heure qui va arriver. Mais vous savez, c'est comme si la fournée venait de sortir du four de votre boulanger. C'est croustillant, c'est tiède. Les odeurs qui se dégagent du pain sont exceptionnelles. Et ça ajoute vraiment une expérience, je trouve, formidable à ce très très bon restaurant qui est le Armani Café.
Écoutez, je le note en tout cas, je note cette adresse. Patrick, une dernière question. Vous êtes adhérent du MEDEF Val d'Oise, pour quelle raison?
Alors, d'abord parce que je pense que tout chef d'entreprise devrait être adhérent du MEDEF ou en tout cas d'une organisation, parce que on n'est pas très nombreux les chefs d'entreprise en France. On doit être un million à avoir plus de 10 collaborateurs, et donc on a des on a des sujets spécifiques, on a des problèmes spécifiques, et le fait de pouvoir déjà en parler entre nous, c'est déjà une très belle chose. En plus, le MEDEF du Val d'Oise a une tradition de réunir régulièrement ses adhérents et une tradition de les informer sur ce qui bouge dans leur environnement et qu'ils n'ont peut-être pas vu. Et donc, à travers ces réunions, ces échanges et ce flux d'informations, finalement, on gagne en performance, nous, en tant que chefs d'entreprise. Et puis, la deuxième chose, c'est que on peut s'aider les uns les autres, on peut se donner des coups de main, c'est pas interdit. Nous, on accueille chaque année des classes de troisième qui font une visite d'entreprise. On va éventuellement accueillir quelques étudiants de un peu plus tard dans leurs études pour leur montrer un petit peu la vie professionnelle. Il y a aussi un rôle sociétal à l'entreprise. Hein, c'est un des derniers endroits où tout le monde se croise. Quelle que soit votre origine, quel que soit votre niveau d'études, quel que soit votre job, vous faites société quelque part, c'est une agora, vous faites société à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, être ensemble, pouvoir en parler, pouvoir prendre les meilleures pratiques des uns et des autres, c'est extrêmement important. Et le MEDEF du Val d'Oise fait un super boulot à cet égard.
Merci infiniment Patrick Chassagne, donc co-président de la Grande Boulangerie de Paris. Merci pour ce témoignage précieux et très inspirant. Je crois que Jeanne a un mot à vous dire.
Oui, merci également d'avoir accepté de se prêter à l'exercice du passage à IDFM Radio. Et c'est important pour nous de pouvoir mettre en valeur les savoir-faire de nos entreprises adhérentes qui parfois font des choses auxquelles on ne s'attend pas ou qu'on connaît moins. C'est le cas de la Grande Boulangerie de Paris, donc c'était vraiment une chance pour nous de pouvoir l'entendre et le partager avec les auditeurs d'IDFM Radio.
Merci pour votre invitation, toujours un plaisir.
Merci Patrick, peut-être une prochaine fois dans nos studios, je l'espère.
Merci à vous.
Merci, belle journée, au revoir. Au revoir. C'est le moment de reprendre notre souffle et on se retrouve dans quelques instants.
Si jamais t'oublies premier regard, tout ce qu'on s'est dit dans le fond du bar. Si jamais la vie n'est pas de mon côté, ne veut pas de nous, non, ne veut plus jouer. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr. Comme dans nos jeux d'antan. J'suis tombé, tombé, tombé. J'suis touché, bravo ma reine. Tu as gagné, je ne suis qu'un fou. Un fou à enfermer. J'suis tombé, j'suis tombé. J'suis tombé, tombé, tombé. J'suis touché, bravo ma reine. Tu as gagné, je ne suis qu'un fou. Ta peur et confiance en moi, je prendrai ta douleur, tu verras ça ira. Si jamais tu doutes, je te fais la promesse de garder sur ta route les mots, la tendresse. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. J'suis tombé, tombé, tombé. J'suis touché, bravo ma reine. Tu as gagné, je ne suis qu'un fou. Un fou à enfermer. J'suis tombé, j'suis tombé. J'suis tombé, tombé. Fini, non, il est là
et je ne suis qu'un fou, un fou à enfermer. Je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo ma reine, tu as gagné. Je ne suis qu'un fou, un fou à enfermer. Je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé, tombé.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
C'est toujours l'économie en direct sur IDFM Radio. Ce matin, une spéciale MEDEF du Val d'Oise avec à mes côtés Jeanne Berry-Josselin, déléguée générale du MEDEF Val d'Oise. Nous venons d'écouter Patrick Chassagne, coprésident de la Grande Boulangerie de Paris. Et je vais donner maintenant la parole à Antoine Le Cozanet, chargé de mission, développement et projet stratégique au MEDEF 95. Donc on enchaîne avec vous, Antoine. Antoine, vous êtes donc au MEDEF 95 depuis quelques jours. Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté de venir travailler au MEDEF? Enfin, c'est le MEDEF qui a accepté que vous veniez travailler
c'est
avec
les deux,
eux.
C'est les toujours deux. Les deux.
Et voilà, pourquoi être attiré par cette entité?
Merci Jacqueline de me recevoir. Je remercie également Frédéric Anfray, le président du MEDEF Val d'Oise, et Jeanne Berry-Josselin, déléguée générale du MEDEF 95, de me donner cette confiance pour porter le nouvel élan qu'ils veulent donner au MEDEF. Le MEDEF, c'est une maison, c'est une belle maison que je connais un petit peu déjà. En fait, j'avais travaillé dans un cabinet il y a pendant trois ans. J'avais participé à des événements portés par le MEDEF, toujours avec cette idée de porter les sujets des entrepreneurs de toute taille, de les sensibiliser aux défis de demain. On parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Donc le MEDEF, c'est une belle maison qui souligne, qui met en avant les entrepreneurs, leurs innovations à l'échelle nationale et sur les territoires. Et ça, c'est important. Dans le cadre du Val d'Oise, un territoire qui est très intéressant, qui est multiple, hein, qui a une géographie, une démographie très intéressante, avec des pôles variés également. On a, comme le disait Jeanne tout à l'heure, on a un objectif assumé aujourd'hui de se porter sur l'est du territoire, sur Roissy-Charles de Gaulle, avec toutes les entreprises qui gravitent autour de cette plateforme aéroportuaire. C'est un vrai atout pour le territoire, un atout économique à l'export pour le territoire. Et c'est tous ces éléments et cette nouvelle dynamique qui est lancée qui m'ont invité à me joindre à cette belle équipe du MEDEF 95.
Alors donc, on comprend que la tâche va être large. Quelles vont être vos premières missions, Antoine?
Dans un premier temps, c'est d'identifier et prospecter de nouveaux adhérents. Hein. Je le disais tout à l'heure, le territoire est vaste et on a la volonté de toucher toutes les entreprises de territoire, que ce soit les grands groupes ou les ETI, les PME, les plus petites sociétés. C'est de fidéliser aussi les adhérents actuels en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. Ça va passer aussi par, aux côtés de Jeanne, hein, je vais la soutenir, la seconder dans le renforcement de l'offre événementielle, hein, elle l'a mentionné tout à l'heure,
il y a trois projets.
Les journées du patrimoine économique, mais c'est aussi la mise en place de petits déjeuners thématiques. Les petits déjeuners, ils correspondent en fait aux besoins des entrepreneurs aujourd'hui. C'est le matin, c'est tôt, tout le monde est plus ou moins disponible. avec des thématiques qui les concernent directement et ils sont demandeurs de ces sujets. Donc c'est quelque chose qu'on va renforcer.
Auquel vous réfléchissez.
Exactement.
Donc vous avez dans les événements dont nous a parlé Jeanne, bon bien sûr vous venez d'arriver donc tout est récent pour vous, mais est-ce que vous pensez pouvoir apporter votre expérience de jeune cadre hein, justement dans ces événements?
Exactement, je le disais tout à l'heure, j'ai travaillé presque 3 ans dans un cabinet de conseil où on était à l'intérieur d'une chambre de commerce et d'industrie, la chambre de commerce d'industrie franco-indienne,
oui.
qui avait besoin aussi d'un nouvel élan avec l'organisation de nouveaux événements, la recherche de nouveaux adhérents. Donc c'est quelque chose que je connais déjà. Ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai réalisé l'année dernière aussi un volontariat dans la Marine nationale. À l'état-major de Nouméa. C'est un bel environnement pour travailler. C'est un environnement...
Mais l'année dernière, c'était chaud à Nouméa.
C'était chaud sous les sens du terme, avec des températures...
Oui. Je ne pensais pas à cette chaleur-là.
c'était un environnement complexe, mais en même temps...
d'ailleurs toujours, je crois. Hein,
ça s'est détendu, ouais. les pouvoirs publics, l'État a mis tout en place aujourd'hui pour être aux côtés des habitants et des entreprises, parce que les entreprises ont été touchées directement par les émeutes
impactées,
du mois de mai 2024. Je crois que le MEDEF local est de toute façon est sur le pont pour soutenir les entreprises qui ont été détruites à 100% ou partiellement, et pour proposer des solutions efficaces.
Donc votre volontariat a duré combien de temps ?
Un peu plus d'un an, pendant lequel j'ai aussi organisé des événements au sein du bureau de l'action de l'État en mer, qui coordonne en fait toutes les administrations qui sont liées à la mer. Donc il y a les douanes, il y a le haut commissaire en local, la gendarmerie maritime, et il y a toute une pédagogie que l'on doit diffuser au sein des forces armées, au sein des différentes administrations. Et cette pédagogie, on la diffuse lors d'événements, de conférences. De la même façon au MEDEF, en fait, il y a une pédagogie, il y a des éléments qu'on va répéter qui sont importants et qu'on diffuse lors de ces événements-là, qui sont toujours au plus près, comme je disais, des enjeux des entrepreneurs et des entreprises.
Jeanne, je suis sûre que cette partie de vie d'Antoine vous a séduite pour le
Oui, bien sûr. Ce qui était un plus chez Antoine, c'est la diversité de son parcours, qui était peut-être un peu moins linéaire que certains candidats, mais effectivement le fait d'avoir fait le pari quand même de faire un volontariat dans la marine et de partir aussi loin que la Nouvelle-Calédonie, ça montre qu'on est prêt à découvrir de nouveaux territoires, à s'engager dans le métier. Il était très preneur de découvrir le Val d'Oise, qu'il connaissait pour ses atouts culturels que nous connaissons tous, mais pas dans l'intime du travail quotidien. Donc c'était une force, et effectivement, je voulais quelqu'un qui avait le MEDEF. Quand on travaille dans un MEDEF territorial, on n'est pas réellement chef d'entreprise. Hein. On travaille pour les chefs d'entreprise, mais on reste une équipe indépendante. On doit être capable de parler à tous les acteurs, c'est-à-dire l'acteur public, le chef d'entreprise, le citoyen. Donc c'est important d'avoir des gens qui savent parler à l'intégralité de ces acteurs et comprendre aussi quels sont les enjeux d'un côté et de l'autre, côté privé, côté public, pour pouvoir les mettre en cohérence ensuite. Donc effectivement, ça, c'est ce qui a fait sens aussi dans le parcours d'Antoine.
Dans le choix que vous avez fait. Antoine, donc on a bien compris que le développement de l'offre événementielle contribue à cette dynamique. Quel rôle jouent aussi les relations internationales dans le développement des PME aujourd'hui ? Est-ce que c'est un sujet auquel vous avez réfléchi ?
Oui, directement. Bah, pas plus tard qu'il y a une semaine, Donald Trump annonçait de nouveaux droits de douane.
Oui. Ils ont même été confirmés hier ou avant-hier, enfin, je crois. Ouais.
Et c'est des sujets qui intéressent directement les entreprises de tous les secteurs, hein, dans le Val d'Oise et ailleurs. C'est l'international, ça peut être une solution pour nos entreprises. Mmh. Le marché français ne doit pas être regardé comme une priorité prioritaire, si j'ai envie de dire. La solution à l'export, le faire du chiffre d'affaires à l'international, ça peut être une porte de sortie pour les entreprises françaises qui sont spécialisées, qui offrent une gamme de produits qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc je pense que oui, c'est une solution à regarder de près, même si le MEDEF peut les accompagner là-dessus.
Certainement, ouais.
L'international a tendance à faire peur aux entreprises françaises, particulièrement françaises, hein, je dis ça, parce que on a nos voisins européens, je sais pas, les Italiens, les Allemands sont très bons à l'international.
Ils sont plus agiles, hein, dans cette direction.
Exactement, et je pense qu'il y a un effort à faire, hein, en France, en Île-de-France et dans le Val d'Oise, pour soutenir, je parlais de pédagogie tout à l'heure, hein, mais soutenir nos talents locaux à l'échelle européenne et mondiale, si possible.
Comme souvent sur l'international, en fait, la difficulté n'est pas tellement l'existence des outils. Ils existent. Le problème, c'est que les entreprises ne sont pas forcément au courant.
Oui, oui.
Donc, il y a tout ce travail de mise en lien. On a fait, il y a quelques semaines, un événement à la préfecture qui s'appelait Oser l'export, qui était sur ce thème.
Oui.
Effectivement, de dire aux entreprises, et notamment aux PME qui pensent qu'elles ne sont pas concernées par l'export parce qu'elles sont PME, qu'en fait si, elles sont concernées, parce que tout bon produit en France peut être un bon produit à l'étranger. Je raccourcis un peu, mais
oui,
on va le dire comme ça. Et aussi que en fait, il y a des tas d'entités qui sont déjà là pour les aider et les accompagner dans ce processus qui peut paraître un peu complexe quand on le connaît pas, de passer à l'export. Il faut juste savoir les mobiliser. La préfecture met en place des informations pour que les entreprises puissent les connaître. Et puis par ailleurs, bien sûr, s'ils ont besoin, au MEDEF, on les aiguillera pour
oui, je crois qu'il y a des passerelles, hein, qui permettent hein, de pouvoir travailler à l'export.
Et c'est dans l'intérêt de tout le monde, et on a cette chance dans le Val d'Oise avec Roissy, effectivement, d'être tourné vers l'international naturellement. Donc il faut savoir la saisir, même si le marché intérieur reste une force importante, et on le voit avec l'actualité, le fait de ne pas être complètement tourné vers l'extérieur est aussi une garantie pour les entreprises. Donc il faut un équilibre entre les deux, mais voilà, ne jamais faire trop pencher la balance d'un côté ou de l'autre.
Bien sûr.
C'est toujours une sécurité pour l'avenir.
Merci, merci Jeanne Berry-Josselin. Antoine Le Cozanet, donc parmi les. On sait qu'il y a des rencontres, hein, mensuelles au MEDEF du Val d'Oise. Votre prochain déjeuner, c'est le jeudi 17 avril. Un déjeuner débat avec Philippe Vigier. Je vous en laisse nous dire quelques mots sur ce déjeuner.
Je vais peut-être
c'est
le faire.
C'est Jeanne qui reprend voilà. La parole.
Antoine est là depuis quelques jours, donc c'est le dernier déjeuner où il n'aura pas participé au montage en intégralité,
d'accord,
mais sur le prochain.
Désolé,
pas de souci. Donc Philippe Vigier, ancien ministre et qui a été aussi rapporteur du PLFSS. Alors le PLFSS, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est un mot compliqué,
oui, c'est compliqué
que les chefs d'entreprise connaissent, mais pas toujours sous ce terme-là. C'est ce qu'on appelle la loi de sécurité sociale,
toujours,
en fait.
Ouais.
Et qu'est-ce que c'est? C'est ce qui a été voté par le Parlement. C'est voté tous les ans, normalement à l'automne, mais on a connu les désordres politiques récents qui ont fait que ça a été un peu décalé. Et pourquoi c'est important pour les entreprises? En fait, le PLFSS, c'est ce qui régit tout ce qui est charges patronales, cotisations patronales, aides à l'emploi. Typiquement, l'enjeu des aides à l'apprentissage, c'est dans le PLFSS que ça se passe. Donc c'est très important, ça touche toutes les entreprises. On ne peut pas ne pas être concerné par définition, puisqu'on a tous des charges et des cotisations patronales. Et l'idée de ce déjeuner, c'est que Philippe Vigier, qui fait partie de la commission des affaires sociales et qui connaît bien ces sujets, nous explique comment ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ce dont on a entendu parler, mais dont on ne mesure pas toujours les impacts réels qu'ils vont avoir demain pour les entreprises, bah, c'est de savoir voilà, quels vont être ces impacts demain pour les entreprises, comment anticiper ce qui va se passer vis-à-vis de ces difficultés qu'il y a eu pour voter le budget. C'est très concret et c'est donc le 17 avril à 12h au MEDEF Val d'Oise, donc 84 boulevard Ezoïse à Argenteuil. Si vous allez sur notre site internet, vous aurez les liens pour vous inscrire ou sur LinkedIn. Voilà, c'est ouvert à tous, y compris aux gens qui ne sont pas adhérents. Et vraiment, c'est l'occasion pour poser toutes vos questions, y compris si vous avez des questions sur la façon dont ça peut se passer plus tard vis-à-vis de la situation politique. Si jamais il y avait une nouvelle dissolution, comment on pourrait anticiper le budget, etc. Ben venez. N'hésitez pas.
Oui, surtout que ce sont des déjeuners qui sont très bien formatés, c'est-à-dire ça démarre à 12h et ça finit à 14h, donc voilà, ça ne prend pas...
L'idée, on essaye d'être strict, alors c'est pas toujours facile,
c'est pas évident,
mais
avec certains invités.
Je vous promets qu'on fera les signes qu'il faut. L'idée, c'est vraiment, on arrive à 12h, de 12h à 12h30, il y a un petit moment convivial pour que chacun puisse s'échanger. Ensuite, l'invité prend la parole une première fois pour se présenter. Puis il prend la parole à nouveau entre les plats, ce qui permet de rythmer la séquence et aussi que vous puissiez échanger avec les personnes qui sont présentes à votre table pendant les moments du déjeuner pour rencontrer les autres chefs d'entreprise, savoir ce qu'ils font. Bien sûr, il y a le sujet du déjeuner, mais il y a aussi l'enjeu de créer du lien et d'échanger avec les autres personnes présentes. Et effectivement, on essaye de tenir le fait qu'à 14h, alors vous n'êtes pas forcément tous partis, on met personne dehors,
mais, voilà.
Mais en tout cas, le dessert est passé et vous pouvez retourner, dans vos entreprises, travailler, voilà, parce qu'on sait que c'est important et que vous n'avez pas forcément des heures à consacrer à ce genre d'événement. Donc voilà, on est assez dur là-dessus, mais ça permet que ce soit dynamique et que ça se passe bien.
Et intéressant. Jeanne et Antoine, je propose qu'on fasse une courte pause et puis on reprend avec vous, Antoine, pour que vous nous disiez professionnellement quels sont vos besoins. À tout de suite.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. For me. We'll be right back.
scent of the pine. You know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. So good.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Spécial MEDEF 95 à l'économie en direct sur IDFM Radio en présence de Jeanne Berry-Josselin, déléguée générale du MEDEF Val d'Oise, Antoine Le Cozanet, chargé de mission récemment arrivé au MEDEF du 95. Alors Antoine, parmi tous les renforcements que vous allez prendre en charge, il y a une newsletter qui paraît toutes les semaines, donc... Moi, je suis assez admirative parce que quand on connaît la rédaction du contenu d'une news, ce n'est pas évident. Je vous laisse nous parler de cette news, Antoine.
Oui, cette newsletter hebdomadaire, elle est importante parce qu'aujourd'hui, dans le flux d'informations que les entrepreneurs peuvent voir passer tous les jours, en fait, il faut réussir à capter ce qui est important pour eux, pour leur territoire, dans leur territoire. Donc cette newsletter, elle synthétise un petit peu les dates importantes du Val d'Oise, hein, les événements importants, les grands rendez-vous auxquels il est important de participer ou d'être simplement au courant. Il y a une partie veille économique, hein, autour de sujets variés, des transports, de la formation, du numérique, des sujets qui intéressent les entrepreneurs. Il y a une partie actualité MEDEF Val d'Oise, évidemment. Récemment, nous avions publié dans la newsletter concernant le Forum Effervescence, qui a été un grand succès.
Ah oui, qui a été une belle édition.
Une belle édition locale. Et il y a également une partie actualité MEDEF nationale. Les grands rendez-vous du MEDEF local. Vous parliez du déjeuner tout à l'heure. C'est typiquement des éléments qu'on va retrouver dans cette newsletter et des invitations que l'on renvoie à nos adhérents.
Oui, c'est un petit rappel, une petite piqûre de rappel, hein, aux chefs d'entreprise.
L'idée de cette newsletter au départ, c'est de se dire c'est compliqué, et on le sait, on est tous concernés, on reçoit beaucoup d'informations tout le temps, et parfois on ne sait pas où les retrouver. Et donc, pour nos adhérents, effectivement, on a fait un bloc d'informations événementielles qui comporte nos événements à nous, les événements qu'on fait en partenariat, ou les événements de nos partenaires, et des événements à ne pas manquer dans le Val d'Oise, avec tous les liens directement d'inscription pour qu'ils aient un calendrier de date à venir clair, très simple, sans détails, sous
c'est
la
ça,
main.
C'est ça, oui, l'essentiel.
Et voilà, qu'on aille droit au but et qu'on sache où retrouver le lien pour s'inscrire, parce qu'on a tous une chose de dire, ah ben oui, j'aimerais bien y aller, mais alors où est le mail, qui est-ce qui me l'a envoyé, bon voilà, c'est que ce soit facile d'utilisation.
C'est du vécu.
Voilà, donc c'est vraiment cette idée-là. Et ensuite, effectivement, on a des petites informations économique, alors qu'on n'invente pas, en fait on s'appuie sur des choses qui ont été publiées par les acteurs économiques sur différents sujets, on donne l'information principale et un lien pour accéder à l'information détaillée. En général, évidemment, enfin je dis en général, mais en fait toujours, on prend des informations qui sont certifiées, qui sont soit des données publiques, des rapports de l'INSEE, des choses comme ça sur le travail, soit des informations fournies par des bureaux d'études dont on sait qu'ils sont de qualité. Et voilà, donc c'est pas notre avis sur les questions économiques, c'est un rapport sur l'information économique de la semaine qui est paru. Et ça permet effectivement pour les chefs d'entreprise, notamment de TPE-PME qui n'ont pas forcément le temps d'aller chercher d'informations, d'avoir quelques lignes de l'actualité et d'avoir une idée de ce qui se passe, etc. Ils ne sont pas obligés de consulter tout le document ensuite, mais au moins il est là. Et ensuite, on met toujours une information du MEDEF national. Typiquement, cette semaine, et c'est l'occasion d'en parler, depuis la semaine dernière, on partage l'information sur les stages de troisième qui sont un vrai enjeu sur lequel le MEDEF se mobilise pour encourager les entreprises à accueillir des stages de troisième. Oui. Il y a sur la plateforme Un Jeune, une solution, il y a un endroit où on peut, en tant qu'entreprise, dire qu'on veut bien accueillir des stagiaires. Moi, j'encourage tous les adhérents à le faire. On a tendance à accueillir des stagiaires de troisième et de seconde un peu quand on est forcé ou qu'on nous tire le bras en disant « Allez, s'il te plaît ». Plus on va accueillir de stagiaires de seconde, pas forcément en étant forcé, et proposé à des jeunes qui sont pas que les enfants de nos équipes, etc., oui, de venir découvrir l'entreprise, plus on va créer de l'appétence pour les métiers.
Bien sûr.
Donc c'est vrai que c'est pas toujours si simple, mais il faut le faire. C'est dans l'intérêt de tout le monde, donc vraiment aller sur ces plateformes, déposer des offres de stage troisième, seconde pour les jeunes, et dans quelques années, peut-être qu'on verra des résultats intéressants dans des secteurs où on a du mal à faire connaître des métiers porteurs d'avenir, qui payent bien, parce que c'est ça aussi qui compte pour les jeunes, mais ils ne savent pas toujours que certains métiers techniques sont vraiment bien rémunérés et mènent à une belle évolution. Donc, en leur faisant découvrir ça au plus tôt, c'est la bonne occasion. Et donc, typiquement, ça, c'est une information que le MEDEF nous encourage à diffuser, qui est dans la newsletter, pour que nos chefs d'entreprise, au niveau territorial, aient l'information, puissent accéder à la plateforme, etc. L'idée, c'est que ce ne soit pas trop long, ça fait une bonne page et demie, et c'est toutes les semaines, normalement en milieu de semaine, parfois on a un peu de retard, mais bon, ça nous arrive à tous.
C'est clair, oui, parce que encore une fois, on sait tout l'investissement que demande la rédaction du news, c'est clair. Et merci d'insister pour ces stages pour les troisièmes. Moi, je peux dire que chez IDFM Radio, on en prend aussi régulièrement de ces jeunes, et ils en repartent toujours très heureux, parce que on s'imagine que dans une radio, il y a le métier de journaliste, mais c'est pas vrai. Il y a technicien, il y a beaucoup,
C'est le principe du stage, c'est découvrir la réalité,
toute la richesse d'une entreprise. On arrive doucement à la fin de cette émission. Donc, merci Antoine pour ces échanges. On vous souhaite une pleine réussite dans votre nouvelle mission. Et puis, vous aurez peut-être l'occasion de revenir
avec plaisir,
chez IDFM Radio.
Je vous remercie encore pour l'invitation.
Je vous en prie, on marque une courte pause avant juste de notre mot de conclusion. À tout de suite.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
IDFM Radio 98, c'est l'économie en direct, c'est la fin de notre émission, mais comme toujours, on ne se quitte pas sans notre petit mot de conclusion. Donc, à mon micro ce matin, j'ai toujours Jeanne Dory-Josselin, déléguée générale MEDEF Val d'Oise, Antoine de Cozanet, chargé de mission, arrivé très récemment au MEDEF du Val d'Oise, et Patrick Chassagne, que nous avons pu interviewer par téléphone. Antoine, un mot de conclusion avant de nous quitter.
Je vous remercie, Jacqueline. Je ne peux que dire aux entrepreneurs d'adhérer au MEDEF du Val d'Oise, qui va renforcer son offre événementielle et qui se tient à disposition des entrepreneurs dans tous leurs besoins. Donc n'hésitez pas à aller sur le site du MEDEF Val d'Oise, sur n'importe quel moteur de recherche ou sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter directement par mail également. Je suis à votre disposition.
Donc, Antoine de Cozanet, COZA2NET. Merci Antoine pour votre présence parmi nous. Et puis encore plein de belles choses pour votre mission.
Merci.
Jeanne Bury-Josselin, un mot de conclusion.
Merci Jacqueline déjà pour ton accueil à nouveau. Un mot de conclusion, conclure simplement effectivement sur cette date dont on a déjà parlé. Inscrivez-vous pour le 17 avril à midi. On a d'autres événements à venir. Pour les adhérents notamment, on a une visite du Sénat à l'invitation de Daniel Fargeau le 15 mai. Donc ceux qui sont déjà adhérents peuvent s'inscrire en nous écrivant par mail pour participer. C'est le matin à 9h20, mais c'est un lieu qu'on n'a pas toujours l'occasion de visiter. Donc il nous reste des places, n'hésitez pas à venir. Et puis pour les autres, au 17 avril ou plus tard, n'hésitez pas à suivre nos informations et nos futurs événements sur le site du MEDEF ou sur LinkedIn.
Et nous, on se fera un plaisir de relayer tous vos événements comme on le fait déjà.
Bien sûr.
Merci infiniment. Je voudrais dire que cette émission a su mettre en lumière l'importance de l'excellence et de l'accompagnement dans le développement des PME à travers le MEDEF 95, TPE-PME. Restez connectés pour suivre les prochaines initiatives du MEDEF 95 et des entreprises dynamiques du Val d'Oise. Merci bien sûr à nos auditrices et auditeurs de nous avoir suivis comme à chaque émission. Merci Francky pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez son podcast sur le site idfm98.fr. Mardi, je vous donne rendez-vous à 9h30 pour un nouveau numéro de l'économie en direct avec de nombreux invités. Alors à mardi, bonne journée et bon week-end.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Life is so cruel without you here beside me. me.